Loïc Tassé est avec nous pour parler de nouvelles internationales. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Et évidemment, la nouvelle internationale qui retient l'attention depuis presque une quinzaine de jours maintenant, c'est ces enfants là, qui sont toujours retenus dans une grotte en Thaïlande. Et là, c'est vraiment la course contre la montre en ce moment.
Oui, parce qu'il y a des pluies qui sont prévues vendredi. Évidemment, on fait baisser beaucoup le niveau de l'eau. Il y a des pompes, il y a 19 pompes qui pompent l'équivalent, qui ont pompé jusqu'à présent l'équivalent de 19 piscines olympiques, plus que ça, de 50 piscines olympiques. L'eau descend très lentement de 1 cm à l'heure. Et on pensait évacuer les enfants, avec des scaphandres, en disant, écoutez, le passage est plus facile, l'eau a quand même baissé, on va peut-être pouvoir arriver à les évacuer. Sauf que il y a des médecins qui ont fait de nouvelles évaluations des enfants et on a découvert qu'il y avait 2 enfants et l'entraîneur qui étaient exténués et qui souffraient de malnutrition. Donc, on ne pense pas pouvoir les sortir immédiatement. Et même, on a commencé à pomper de l'oxygène à l'intérieur même de la grotte. Mais remarque, ce qui est intéressant, c'est que tout semble sous contrôle pour le moment.
Ouais.
Et il y a une solidarité internationale qui est quand même assez fantastique là-dedans. Mmh. Parce que les pompes dont je te parlais tout à l'heure, c'est des pompes qui sont fournies par des ingénieurs japonais. Et il y a des sauveteurs, on le sait, britanniques qui ont trouvé les enfants d'abord.
Ouais.
Et si tu veux, il y a même des chasseurs d'hirondelles, de nids d'hirondelles
ben
qui
oui.
sont rendus là. T'as vu ça aussi?
Ben oui, c'est extraordinaire.
Des chasseurs de nids d'hirondelles qui sont des gens qui ont l'habitude de grimper des parois très, très abruptes. Et
ouais.
on pense qu'il y a peut-être quelque part des puits qui communiquent avec le réseau de galeries souterraines. Et ça pourrait être évidemment un choix si on arrivait à connecter, à trouver une connexion entre ces galeries et ces puits, pour sortir donc les enfants sans avoir à leur faire tout le périple, qui prend quand même 5 heures au retour. Ça prend 6 heures à l'aller, mais à cause des courants, ça prend 5 heures au retour.
Puis ça, c'est pour des gens
des plongeurs
entraînés,
professionnels.
Des plongeurs professionnels.
Exact.
Alors que là, on est avec des enfants qui n'ont jamais fait de plongée de leur vie. Là.
Absolument. Et c'est pour ça aussi qu'on est en train de penser à l'idée d'enfermer les enfants dans des sacs étanches avec des bonbonnes d'oxygène pour les évacuer. Ça s'est déjà fait, semble-t-il, dans d'autres circonstances. C'est une technique qui est éprouvée. Donc,
on parlait avec un groupe de sauveteurs. C'était sauveteurs spéléologues français. Là. C'est un organisme français qui nous racontait, c'était la semaine dernière, je pense, ou lundi, ou mardi plutôt, qu'eux avaient développé une espèce de technique, ce qu'ils appellent une civière de plongée.
C'est ça.
Qui était un peu le même...
C'est ça, c'est une civière de plongée dont je parle, c'est ce principe-là. Donc, ça pourrait se faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que plonger dans une grotte, ça demande un niveau de plongée sous-marine qui est quand même assez élevé.
Surtout qu'on parle d'une eau qui est pas translucide du tout. Là, qui est...
Non, et parce qu'il faut que les gens puissent remonter à la surface. Là, on ne peut pas le faire. Et il y a un élément très, très important en plongée qui consiste à apprendre à ne pas paniquer, à rester calme en toutes circonstances. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ça prend quand même quelques séances d'entraînement. Mais bon, écoute, il semble que ce soit sous contrôle pour le moment, même s'il y a une course contre la montre à cause de ces eaux qui s'en viennent, de ces pluies diluviennes qui s'en viennent.
Classement 2018 de Reporters sans frontières sur la liberté de presse dans le monde.
Oui, c'est chaque année Reporters sans frontières qui fait ça. Ça porte sur 180 pays. Alors, je te donne peut-être les 10 premiers pays, en commençant par le 10e rang. On retrouve, c'est peut-être étonnant, le Costa Rica, qui est un pays où il y a beaucoup de liberté de presse. 9e rang, le Danemark. Ensuite, la Nouvelle-Zélande, la Belgique, la Jamaïque, la Suisse, la Finlande, la Hollande. La Jamaïque, la Suisse, la Finlande, la Hollande et en première position, la Norvège, qui est le pays où il y a la plus grande liberté de presse.
Mais voyons, t'as pas nommé le Canada,
non.
Mais comment est-ce possible?
Mais le Canada arrive au 18e rang, ce qui est pas si mal. En fait, il a progressé de 4 rangs. Il était au 22e rang l'année dernière. Et Reporters sans frontières note qu'il y a une nouvelle loi fédérale pour protéger la confidentialité des sources journalistiques et qu'au Québec, il y a eu une commission d'enquête pour enquêter, tu sais, sur la surveillance de plusieurs journalistes. Donc tout ça, c'est
dont
positif.
Moi.
Ah oui, tu faisais partie de ce lot aussi.
En fait, j'ai été impliqué dans une demande pour dévoiler mes sources journalistiques dans le procès de Nathalie Normandeau.
Et tout ce que tu peux dire, c'est qu'elles
Québec.
Sont excellentes.
Exactement.
Donc, quand même, tu vois, tu es responsable du progrès du Canada. La France est au 33e rang. Elle a progressé. Elle était au 39e rang. Les États-Unis, par contre, ont régressé. Ils sont au 45e rang et ils étaient au 43e rang en 2017.
Ça, c'est à cause des fake news.
Mais c'est Trump. C'est à cause de tout ce qu'il fait peser comme climat d'incertitude.
Exact.
C'est pas très bon, hein, quand même, le 45e rang. Il y a quand même des gens qui sont pires.
Ouais.
Je te les donne, les cinq pires. Au 176e rang, on trouve la Chine. Au 177e rang, la Syrie. 178e rang, le Turkménistan. 179e rang, l'Érythrée. Et au dernier
L'Érythrée,
rang...
L'Érythrée, tu veux dire.
L'Érythrée, pardon.
Érythrée, ça c'est quand quand t'es fatigué
je
le matin.
Sais, je pense qu'il est temps que je prenne des vacances.
C'est
ça. L'Érythrée. au 180e rang, la Corée du Nord.
Ben voyons donc, la Corée du Nord
oui,
au dernier rang.
Je sais que tu es surpris, qui est supposé être le meilleur pays du monde, ou presque.
Ben selon Donald Trump, ici, Kim Jong-un est tellement
il fait un excellent travail.
Ben,
il faudrait peut-être lui envoyer ça. Il va sûrement nous répondre que Reporters sans frontières se trompe.
Oui, de c'est des fake news.
Oui, probablement aussi. Voilà. Ce que je viens de te donner là, ça doit être ça, des fake news aussi. Exactement.
Bon, Donald Trump aurait envisagé d'attaquer le Venezuela.
Oui. Écoute, il l'avait déclaré, il y a, je dis ça en riant, mais c'est pas drôle du tout. Il avait déclaré ça au mois d'août dernier, tu sais, en disant, ben, on est prêt à les attaquer s'il faut. On s'est dit, bon, c'est une figure de style.
Ben oui,
il parle comme ça, il va pas le faire. Mais non, il semble qu'au mois d'août 1977, à la Maison-Blanche, alors qu'il discutait des sanctions possibles des États-Unis contre le Venezuela, il s'est tourné vers ses conseillers et a dit « Je veux que vous me prépariez un rapport sur la possibilité d'attaquer militairement le Venezuela.
Mm-hmm. » Donc, l'année passée, il y a moins d'un an, en fait.
Il y a moins d'un an.
Ouais.
Il voulait attaquer le Venezuela. Alors, on lui a dit « Écoutez, c'est peut-être pas une bonne idée, monsieur le président. » On a tenté de le dissuader. On lui a dit « Vous savez, ça risque de mettre en péril les relations entre les États-Unis et puis les autres pays d'Amérique latine. Ils n'aimeront pas ça que vous attaquiez le Venezuela. » C'est pas grave. Trump a continué à pousser pour une solution militaire. Il y en a même discuté, figure-toi, avec le président de la Colombie, Manuel Santos, et ses conseillers voulaient surtout pas qu'il fasse ça. Ils disent, écoutez, si vous voulez attaquer, au moins taisez-vous.
Ouais.
Ne dites à personne que vous allez faire ça. Mais il a été s'ouvrir de ça, donc, devant le président de la Colombie. Et c'est finalement l'ex-conseiller à la sécurité, Monsieur McMaster, qui est parvenu à expliquer à Trump pourquoi l'option militaire était dangereuse. Mais on ne sait pas où il en est encore dans ses pensées. Et c'est plutôt inquiétant de voir un président américain qui songe sérieusement à lancer son armée contre les Vénézuéliens. Et je sais que le régime là-bas est un régime terrible. Mais tu sais, est-ce qu'il faut nécessairement envoyer l'armée là-bas? Avec quel résultat?
Ouais.
Moi, je pense qu'il consoliderait le pouvoir plus qu'autre chose.
Oui.
En tout cas.
Exactement. Ça démontre à quel point...
C'est un innocent en relations internationales.
Ben,
il comprend
fait,
rien.
Oui, c'est ça, exactement.
Il comprend.
Ouais.
Écoute.
J'allais dire, il est instable, d'une part.
Ça aussi, mais il comprend pas grand-chose dans les relations internationales. Il est pas capable de voir un ou deux coups à l'avance, on dirait.
Ouais, c'est... Alors que les relations internationales, c'est de la stratégie bien avant autre chose.
Ben, c'est du gros bon sens aussi.
Ouais.
Mais il semble en manquer légèrement.
Bon, la reconquête se poursuit en Syrie.
Oui. Alors, il y a eu un échec avec les négociations avec l'opposition. Les gens disent les rebelles, mais en fait, ce sont des islamistes qui sont là, tu sais. Il y a une question aussi de vocabulaire là-dedans que certaines personnes ne veulent pas employer. Toujours est-il que il y a des centaines de missiles qui ont été lancés par des avions russes et syriens depuis hier dans le sud de la Syrie, près de la ville de Deraa, qui compte 150 000 personnes. La population civile fuit ces zones de combat. Quand même, il y a des combats qui se perdurent là depuis quelques semaines. On parle de 300 000 personnes, malheureusement, qui ont fui des zones de combat. Or, ces gens se sont réfugiés à la frontière israélienne ou jordanienne. Mais bien sûr, ni Israël ni la Jordanie ne veulent les accueillir. Et donc, si tu veux, ce qui se produit, c'est que l'armée syrienne poursuit sa poussée. Elle semble même maintenant contrôler une partie de la frontière avec la Jordanie. Et en fait, Bachar al-Assad contrôle 60% de tout le territoire syrien jusqu'à présent. On rappelle quand même que ce conflit perdure depuis 2011 et qu'il a quand même fait 350 000 morts.
La Birmanie viole l'accord de retour des
Rohingyas.
Voilà.
C'est étonnant, n'est-ce pas?
Vraiment?
C'est selon l'ONU. Écoute, il y a un accord qui avait été signé en janvier dernier entre la Birmanie et le Bangladesh. On sait qu'au total, il y a 700 000 réfugiés, dont 120 000 qui sont dans des camps. Ouais. Alors, combien sont revenus? Quelques milliers? Quelques centaines? Non, zéro. Zéro depuis que les accords sont signés. Et donc, il est assez évident que la Birmanie ne veut pas les accueillir à nouveau et est très contente qu'ils soient à l'extérieur de la Birmanie, malheureusement, ces pauvres Rohingyas.
Bon, chaîne humaine de 3,5 kilomètres au Nicaragua pour réclamer le départ du président Ortega, qui est là depuis
Le président Ortega s'est fait réélire. En fait, il a été élu. Il était là avant, mais il s'est fait élire en 2007 parce qu'il était à la tête d'une junte militaire. Et donc, c'est quelqu'un à qui on reproche le népotisme, la corruption.
Il dit, moi, j'ai rien contre le népotisme, en autant que ça reste dans la famille.
Oui, c'est ça, exactement. Sa femme est pour, paraît-il. Et il est, comme je dis, très corrompu. Et en plus, il a des tendances très autoritaires. Il est en train de ramasser tout le pouvoir autour de son poste. Et donc, les gens veulent qu'il déclenche des élections anticipées en 2019, alors que la date des élections est de 2021.
Ouais.
Et la crise, donc, dure depuis 2 mois et demi. Jusqu'à présent, elle a fait entre 209 et 309 morts, ça dépend des sources, et à peu près 1500 blessés. Mais alors, il y a eu une chaîne humaine assez impressionnante de 3,5 kilomètres entre deux villes, Managua et Masaya, qui montraient l'opposition justement des gens. Ce à quoi les partisans, parce qu'il y en a d'Ortega, ont répondu, mais il semble que ce soit surtout des fonctionnaires qui eux aussi ont formé des chaînes humaines dans les rues de la capitale Managua. Et malheureusement, il commence à y avoir des affrontements entre les gens qui sont pro et anti Daniel Ortega. Et ça s'est passé entre autres dans la ville de Trinidad. Il y a eu un mort, c'est un policier, et une dizaine de blessés. Donc la situation dégénère là-bas, malheureusement.
Et là, on va parler d'une situation...
Glissante.
Épouvantable. Glissante, c'est le bon mot, effectivement. Parce que les bananes seraient en danger.
Oui, autour du monde.
Ouais.
C'est déjà arrivé dans les années 50. Et on a finalement trouvé une variété de bananes qui était capable de résister à cette maladie. Mais malheureusement, il y a une nouvelle maladie qui est apparue, qui s'appelle la maladie de Panama, et qui ravage non pas l'Amérique latine, comme on pourrait penser, mais l'Asie. Les récoltes de bananes sont en péril en Asie. Et ça affecte cette variété, la variété Cavendish de bananes, qui est répandue partout à travers le monde.
Ça, c'est la banane commune qu'on mange.
C'est la banane très commune qu'on mange partout. Mais le problème, c'est que les bananes, si tu veux, sont toutes des clones, si on peut dire, des mêmes bananiers. Mm-hmm. Donc, elles ne résistent pas à ça. Et là, on craint que cette maladie finisse par arriver en Amérique latine et qu'elle ravage aussi les plantations de bananes en Amérique latine. Et là, on se retrouve avec un grave problème.
Les bananes qu'on mange, nous, ici, viennent de l'Amérique latine, n'est-ce pas?
En grande partie, je pense, oui. Mm-hmm. Mais là n'est pas le problème, c'est qu'on n'aurait plus de bananes. Or, il reste une variété de bananes qui serait résistante à cette maladie de Panama. Et cette variété de bananes est à Madagascar. Ce sont des bananes sauvages, mais figure-toi qu'il ne reste que 5 bananiers sauvages dans la nature. On en a répertorié 5 parce qu'il y a eu des coupes sauvages partout à Madagascar. Et en ce moment, il y a des gens qui disent « Écoutez, il faut faire très attention à ces 5 bananiers. » Ils semblent capables de résister à la maladie de Panama et c'est possible qu'on ait un grand besoin d'eux si jamais cette maladie se répand à travers toute la planète. Ils ont peut-être des gènes qui sont résistants, il faut les étudier. S'il vous plaît, faisons attention à ces 5 bananiers-là.
On ne peut pas, récolter les fruits et les multiplier?
Je pense qu'on est en train d'essayer de le faire, mais il faut faire attention à ces plans-là. Il faudrait probablement les reproduire aussi. Et Stuart lance un cri d'alarme en disant il y a quelque chose qui est en train de se passer avec les bananes. Mm-hmm. Ça se pourrait qu'on n'en ait plus dans les marchés à ce point-là. Pas demain matin, là, on va en trouver. Mais si cette maladie se répand en Amérique latine, ça va aller très vite à ce moment-là.
Et là, ce sera un terrain glissant.
C'est ce que
évidemment.
Je te disais. Voilà. Exactement. D'où nos jeux de mots subtils.
Ah, écoute, c'est de pelure de banane.
Exactement.
Ne nous pelure de bananisons pas.
Exactement.
Auto-pelure de bananisons pas.
C'est un bel exercice de prononciation.
Voilà, comme disait Jacques Parizeau.
Exactement.
Merci, Loïc.
C'est un plaisir.
À demain.